Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 21 juillet 2012. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h du sport. Les résultats sportifs en direct des vestiaires de l'infirmerie, à 15h du reggae avec Janet Dead. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans les médias, voici le programme ensoleillé que vous attendez tous.
J'arrive.
Ah tiens donc, t'es là. Bonjour.
Bonjour. Bonjour JB.
Bonjour Xavier.
Bonjour. Ah oui.
Bonjour
ah,
Thomas.
On m'entend pas, ça y est.
Ah, ah bah oui.
Daskritch est de retour.
Bah, ouais, avec
bah,
des bourdes
ouais,
et
ça
des
fait deux mois. Ça faisait deux mois, donc voilà, fallait bien que je revienne.
Au moins.
Un peu à l'arrière. Quoi, bah quoi, content, bah, tu vois. Non, mais ça fait plaisir d'être revenu et tout. En plus, je reviens... Quand je reviens, vous avez mis le beau temps et tout, ça me fait plaisir.
Chers auditeurs,
voilà, ça m'a manqué, ça m'a manqué.
Daskritch est tout nu derrière la console. Hein,
ça m'a manqué et je
oui, si vous n'avez pas l'image, il est à poil hein, dans la régie.
C'est
ça
pas
faisait
très beau à voir.
Deux mois que j'avais pas fait d'antenne, ça manquait quoi. Attendez, qu'est-ce que vous croyez? Bon, allez, on va peut-être y aller proprement. Alors, si je me trompe, là, normalement, je lance le générique.
Radio FMR présente le supplément week-end, le magazine des cultures geek, avec du sport, Ultimatum, Daskritch et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour et bienvenue à tous. Alors une fois de plus, je sais pas comment ils ont réglé les micros les émissions précédentes, mais faut pas s'étonner s'ils sont mauvais. Contrairement à nous.
Bah eh oui, ouais. C'est vrai, si on n'était pas mauvais, ça saurait.
Ah, 9 ans d'expérience qui font toute la différence. Émission numéro 318. Bonjour et bienvenue.
Alors, il y a quoi comme numéro symbolique qui arrive là? 318, 333.
Quoi? Ouais, je sais pas. 50 000.
333, c'est dans combien de temps ça?
Dans au moins au rythme où on va, c'est dans 2 ans.
50 000.
Non, c'est simple.
Ah oui, bon, alors.
Ouais, ouais, je risque de passer 50 000 tweets semaine, pendant l'émission, ça va faire bizarre.
Ouais, ça sera un peu. Ouais,
erreur 304. Ah non, 304, c'est fait l'erreur. Ouais. Non, je sais pas. Qu'est-ce qui reste? Amis auditeurs, si vous avez des chiffres, des nombres symboliques commençant par 300 après 18, vous pouvez nous le.
Ouais, et si vous êtes plus réveillé que nous, ou si vous voulez bien nous calculer quand est-ce que tombera l'émission 333, ça serait très sympathique.
Non, non, ça c'est tellement aléatoire qu'on peut en faire un tirage au sort pour le loto.
Allez.
On va. Oh le ouais. Stylo qui tombe, ça commence bien sûr comme ça.
Il manque d'entraînement, il manque d'entraînement, c'est la reprise.
Voilà, ça fait deux mois, c'est vrai que j'étais pas à l'antenne, néanmoins. Heureusement, JB, Thomas, du sport, on se continue l'émission, ce qui est quand même la preuve que. On assure.
Il faut dire que. Non, c'est surtout la preuve que personne n'est indispensable dans cette émission.
Loin de moi l'idée de croire le contraire, même si, quand même, on a juste fait une petite modification, mais qui ne s'entend pas à la radio. Il s'agit du site internet, puisqu'on l'a un petit peu refait, on l'a un petit peu remanié, et juste, il passe un petit peu mieux sur téléphone. Ah. Maintenant là ça passera un petit peu mieux. On a supprimé la partie des membres puisque on s'en est jamais réellement servi, donc il y a pas de quiz.
Ouais, c'était moins 18
le top
les membres,
5
alors...
et tout ça, mais on mettra il y aura bientôt une newsletter, il y aura deux trois trucs qu'on va rajouter. Hein ?
Il est en responsive design ?
Bah c'était facile à faire.
Oui, mais tu l'as fait ou pas ?
Bah oui,
d'accord.
Non mais attends, qu'est-ce que tu crois? Autre chose aussi, c'est que ça marche aussi sur les box ADSL, à savoir que maintenant les radios FMR et l'onde miroir sont disponibles. Si vous avez une Freebox Révolution, vous allez dans musique, radio, web radio, et on est disponible là-dedans avec plein d'autres radios, des radios de qualité. C'est-à-dire avant, pour être une radio, pour la diffuser soit sur CanalSat, soit sur le câble, soit sur l'ADSL, il fallait payer une taxe à TDF qui était assez coûteuse. C'était aux alentours, je crois que mensuellement ça nous aurait coûté 200 euros à peu près. Pour une chose que fait TDF qui est fabuleuse, c'est qu'il pointe juste une antenne vers notre émetteur et en fait il recapte le son qu'on fait en FM, ce qui donne une qualité absolument dégueulasse. Là c'est vraiment le son de stream de radio FMR, c'est-à-dire celui que vous avez quand vous allez sur le site de la radio. C'est aussi le son qu'on utilise pour le podcast actuellement, puisqu'on a des petits soucis d'enregistreur, je sais pas s'ils ont été corrigés, donc c'est plus simple pour nous de reprendre ce son là le son est correct. Et accessoirement, vous avez aussi le nom des programmes. Donc en ce moment, ceux qui nous écoutent sur la Freebox, tout comme ceux qui nous écoutent par un ordinateur, il y a marqué le supplément week-end avec la description de l'émission. Et même, on aura bientôt la présentation des en temps réel, le chapitrage et tout le reste. Hein. Soyons in.
Et on pourra zapper ta chronique alors ?
À mon avis, plus celle de du sport. Je dis ça parce qu'il n'est pas là.
Non, parce que franchement, moi, j'aime beaucoup celle de du sport.
Voilà, chacun ses goûts, ses couleurs. Vous le faites comme vous le sentez.
C'est le retour de la vanne.
Voilà, exactement. Ce week-end a lieu à Rodez le festival La Fouillade, qui est un festival de littérature, de bande dessinée, tout ça. Et j'ai lu dans la dépêche ce matin qu'ils ont fait quelque chose de plutôt intéressant. C'est-à-dire que ils ont fait un petit livret de 48 pages qu'ils distribuent à la gare de Rodez et dans les gares alentours gratuitement, avec dedans de la bande dessinée et ce genre de choses qui est librement je vais dire donné aux voyageurs de la SNCF justement dans le département pour ben pourquoi pas passer la journée donc à ce festival. À noter aussi à propos de festival que dans deux semaines ce sera le 21e fête de la BD à EOS. Et que donc, si j'en crois mon agenda, on a les Usual Suspects qui seront sur place, à savoir HD, Joël Azara, Book, Chosy, DJ, Ernst, Fresato, Serge Goulesque, Herman, Le Reculé, Franck Margerin, Servet, Sokal, Stiban, Van Lintou, Westerlin, Widem Locher. Ça fait quand même plutôt du beau monde, donc c'est pas inintéressant. L'entrée là aussi est gratuite. Ça se passe donc le dimanche 5 août. Si je me trompe, ils vont encore le faire au hall pour être un petit peu à l'abri, parce que sinon il y avait un gros problème technique, c'est que les Belges devenait instantanément rouge. Et à mon avis, c'était pas que les coups de soleil. Capitaine de l'Armagnac oblige. Enfin bon. Évidemment, on avait prévu de parler de plusieurs choses, de films un petit peu violents et tout ça. On va parler tout à l'heure de Spider-Man. On parlera aussi de
The Amazon, Spider-Man.
TDKR. Malheureusement, à propos de TDKR, donc si vous le savez, il y a eu une fusillade à Aurora, donc qui est une petite ville moyenne aux États-Unis. Donc on a une pensée pour les 12 victimes donc de ce fou furieux, qui en plus est une ville qui est à 35 km de Columbine, connue pour son massacre en 99. Mais il y avait aussi une journaliste qui fait partie des victimes, qui avait réchappé à un autre massacre qui a eu lieu à Toronto la semaine d'avant. Là, on en parle bien évidemment parce que ça a été vraiment spectaculaire, mais aussi parce que immédiatement toute promotion de Batman The Dark Knight Return a été suspendue. Toute l'équipe était à Paris. The Dark Knight Rises. Ils étaient à Paris hier en fait pour faire la grande promo avec une avant-première avec toute l'équipe du film, etc. Et finalement ils sont tous restés à l'hôtel. Ils ont fait annuler la promo parce qu'évidemment le cœur n'y est absolument pas. Évidemment tous les hommes politiques en parlent aux États-Unis du moins. Évidemment on va dire que c'est les jeux vidéo. Évidemment on va dire que c'est la violence dans les comics. Et on ne passera jamais au problème des armes aux États-Unis, puisque c'est protégé par le Second Amendement.
Enfin, si, les armes aux actuellement... États-Unis, tout le monde en parle, sauf les Américains.
Si, il y a eu une grande polémique dans l'Iowa où actuellement ils ont des gros incendies hein, dans les rocheuses et tout ça, parce qu'ils sont dans une période de sécheresse assez importante, mais surtout parce que le gouverneur de l'Iowa a refusé d'interdire les tirs à armes automatiques dans les montagnes sous prétexte que le citoyen doit pouvoir s'entraîner. On sait que c'est des ricochets sur les pierres à côté d'une végétation très très sèche qui fait que qui est déclencheur de pas mal d'incendies. Néanmoins, de ce que j'ai entendu ce matin sur les chaînes d'info américaines, le candidat républicain a proposé une loi limitant, voire fortement restreignant les ventes d'armes. C'est plutôt étonnant, alors que Obama, lui, dit pour l'instant non. Enfin il est mitigé tout simplement parce que il a tenté de faire passer une loi il y a 4 ans sur le sujet, il s'est fait retoquer à une majorité absolue quoi. Donc voilà, donc tout cela, c'est évidemment, c'est pas drôle. Donc on a une pensée pour les 12 victimes.
Oui, après, enfin bon, autant nous on peut s'offusquer du débat sur la violence dans les comics, autant certains Américains qui ont grandi dans cette permissivité sur le port d'armes peuvent aussi dire, ben non, le problème c'est pas les armes, c'est les gens qui utilisent les armes aussi. Donc c'est plus compliqué que ça aussi.
C'est la preuve que le sujet est extrêmement
c'est
compliqué.
C'est jamais la faute de l'arme en elle-même, c'est toujours la faute de l'utilisateur.
Voilà.
Mais en même temps, on permet à l'utilisateur d'utiliser ses armes. Donc, bon, à réfléchir.
Enfin, s'il les acquiert, c'est bien pour avoir un usage quelconque.
Jouer à s'entraîner dans les rochers.
Voilà. Quelque chose de... pour en revenir aux comics, entre guillemets, et à la violence dans les médias et tout ça, il y a une pétition qui a circulé au Comic-Con de San Diego. C'est une pétition qui s'appelle Dirty Laundry. Thomas, je suppose que tu l'as vue.
Oui, tu supposes bien. D'ailleurs, je vois que JB opine de la tête aussi.
Oui,
mais nous avons décidé de ne dire que ça aujourd'hui.
Voilà.
Donc, je te préviens avant. Voilà, donc il s'agit d'une pétition. Pourquoi on en parle dans le supplément week-end et c'est parce qu'il a été projeté au Comic-Con de San Diego? Pourquoi il a été au Comic-Con de San Diego? Vous n'avez qu'à aller faire une recherche sur Internet et vous voyez ce petit court-métrage qui est quand même une sacrée bonne pépite qui dure approximativement 10 minutes.
Ouais, un peu moins.
Ouais, avec des acteurs, surtout, bon, on parlera un qui a un second rôle assez marquant dedans qui est Ron Perlman. Si on parle des autres, on ne peut pas parler des autres sans commencer à spoiler un petit peu. Donc voilà.
Oh bon. Dire.
Bah en fait,
Thomas Jane n'a pas fait que ce qu'on n'a pas le droit de dire.
Voilà. Mais en fait, tout le problème. Donc au Comic-Con, c'est une pétition aussi envers. Enfin, c'est un hommage envers tous les geeks qui lavent leurs t-shirts et qui mettent de la lessive blanc ou qui mettent la machine sur 60 degrés. Des fois, ça les agace. Grave.
Voilà. Donc vous cherchez sur internet Dirty Laundry, Laundry L-A-U-N-D-R-Y, qui est lessive, je crois.
Oui, c'est une lessive, ça. C'est une lessive.
C'est l'endroit où tu vas faire ta lessive.
C'est pas à l'abri.
Oui, c'est de l'abri.
Ouais. Ouais. Un morceau qu'on passera peut-être tout à l'heure, parce qu'en fait, on a un petit problème technique sur la gestion centrale.
Dans ce cas-là, si on le passera tout à l'heure, on en parlera tout à l'heure.
Oui.
Voilà. C'est d'accord, mieux, hein. Bah si on y arrive, donc du sport, si tu peux arriver assez vite, parce que donc
voilà.
Justice quoi, merde. Voilà, justice et punition, on reste dans le thème finalement. Oui, non, mais pourquoi vous vouliez parler? Non, parce qu'il est à côté de... Non, il est dans le tas. Là, il y a le nouveau psychopathe. C'est un spécial été, puisque ils font le numéro double, comme chaque année. Donc, c'est le numéro 244, qui vaut un petit peu plus cher, mais il n'y a pas de publicité dedans. Donc, il vaut 8€, c'est en kiosque, et c'est un spécial. Alors, remonte-le-moi, parce que j'ai...
Les connards en vacances.
Ah oui, il est fabuleux, j'adore. Donc, c'est un couple qui est face à une... un couple en trekking qui est face à une cascade. Chérie, ce spectacle me laisse sans voix. Parfait, on va faire le campement ici. Et voilà, donc c'est comme d'habitude, il y a toute l'équipe du psychopathe. À noter quand même que Kaza a fait une histoire dedans illustrée, donc c'est, j'ai l'impression qu'il revient vers la prépublication lui aussi, et en dehors de la SF, c'est toujours de l'humour vachard et tout ce que vous voulez, et franchement c'est un très très grand moment à lire. Donc voilà, donc c'est disponible en kiosque, Psychopathe numéro 244, pour des vacances punk. Ça vous fera toujours plaisir. D'autres choses dans les news?
Je vois pas.
On voit pas, bon, on verra ça tout à l'heure.
Je suis aveuglé par le soleil là.
We'll be right back. je vais commencer non pas immédiatement par de la bande dessinée, quoique l'émission est déjà bien commencée, mais bon, je vais commencer par un guide que l'on aurait aimé parler au moment de Japan Expo, bon bah pas pu, et ben tant pis, c'est un guide qui est édité par, oui mais il n'y a pas de caméra donc ça va, je m'en fous un peu, JB, lis-le, instruis-toi. C'est une association qui s'appelle International Internship Programs, qui en fait est une, enfin c'est pas vraiment une association, c'est un peu l'équivalent, je veux dire, du Goethe Institut pour l'Allemagne ou pour la Maison de la Francophonie pour la France. Donc c'est en fait c'est vraiment, je veux dire, un organisme parapublic pour en fait des échanges culturels et faire apprendre un peu plus ce qu'est le Japon aux étrangers. Ça s'appelle Le Japon en un coup d'œil, c'est comme ça que c'est traduit, c'est aux éditions Kiko chez Kana, puisque ça a déjà été publié mais en anglais, enfin en bilingue anglais, sous le nom Japan at a Glance. Et c'est un ouvrage encyclopédique et donc écrit par cette association de par ses près de 25 000 ambassadeurs culturels à destination des étrangers curieux de mieux connaître leur archipel. Alors il est riche, documenté, écrit dans un langage clair et surtout dans une volonté pédagogique d'expliquer les spécificités de la culture japonaise à ceux qui ne sont pas nés. Alors la plupart des chapitres sont courts, certes succincts, mais cela permet de découvrir énormément de points différents, comme les fêtes religieuses, les différentes écritures, la communication gestuelle en fait dans la vie quotidienne, l'art de bien se tenir à table, les contes et légendes, ou même l'ikebana, l'art floral traditionnel du Japon. Là où le livre de poche est différent, eh ben c'est qu'il est bilingue. Tout texte est systématiquement écrit à la fois en français et en japonais. C'est donc aussi dans l'idée que ce livre vous réserve à l'avenir quand vous serez jeté dans le bain du japonais écrit, ou qu'il puisse servir de pont lors de rencontres justement avec des nippophiles ou des natifs japonais. À la lecture, ce livre est réellement enrichissant et didactique et parfaitement écrit, et il peut se lire soit d'une traite, soit par bout de page. Son approche encyclopédique fait qu'on peut l'ouvrir au hasard sur l'un des 246 pages et ne pas se sentir complètement perdu, mais apprendre quelque chose sur un sujet. Il permet aussi de très vite apprendre les bases. Bref, si justement vous souhaitez mieux connaître la culture de l'Extrême-Orient, c'est l'un des meilleurs livres qui nous a été donné de lire en termes d'initiation, bien évidemment. Le format poche est un réel plus. Alors évidemment, rien ne vaut que la rencontre et l'échange, mais ce livre est déjà un premier pas vers le voyage. Le Japon en un coup d'œil, c'est dans la collection Kiko, chez Kana. C'est édité par l'International Internship Programs. Les éditions Kiko avaient déjà sorti des bouquins assez intéressants. On avait reçu une japonaise qui avait écrit « Pourquoi les Japonais ont les yeux bridés ?» C'était extrêmement intéressant. Là, c'est un peu plus formel, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, quoi. C'est... J'en vois un qui est captivé. Il va peut-être finir par lire des mangas, JB.
Non. Pa la pa la pa pa.
Je savais que ce mec n'avait aucune volonté d'ouverture.
Non, désolé, j'aime bien, mais bon, voilà quoi, je suis ouvert un peu à tout. Pas exclusivement au Japon, comme certains, hein.
Mais non, on le sait. C'est le plus dur, c'est expliquer aux attachés de presse. D'ailleurs, je pense que vous le comprendrez dans le programme aujourd'hui que je vous ai réservé. Mais là, pour un peu varier et pour rester, je veux dire, dans l'influence qu'a eu, ben, je veux dire, le Japon sur la culture actuelle, on va parler ben, de bandes dessinées qui s'en rapprochent, je veux dire, plus ou moins, non, pas du tout, mais je veux dire, qui ont été fortement influencés culturellement par un certain secteur de l'édition. Thomas.
Voilà, donc on va commencer une parenthèse de manga français. Donc ça a tout du manga, c'est en noir et blanc, avec des personnages à gros yeux, du code du manga, de narratif, visuel, de découpage, on a le format, mais ce n'est pas japonais, c'est français. Et on commence par une série que déjà 3 tomes parus, il y en aura 4 au total, qui ça fait 2 ans je crois que c'est par, que le premier tome est paru, donc c'est quelqu'un qui est tout seul, donc c'est pour ça que ça a un rythme de parution assez long. Et j'ai découvert la série avec les 3 tomes d'un seul coup là cet été, ça s'appelle Appartement 44. Donc l'auteur c'est Dara, donc c'est pas confondre, c'est pas Daria, Dara est plus positif. Alors, c'est une blague que l'attaché de presse m'a sortie, parce que j'avais dit, je voudrais le kit d'image de Daria. Il m'a dit, non, je t'arrête dessus, c'est Dara. Hein, voilà. Bon, blague mise à part. Donc, Coco, la fashion victim musicienne, toujours de bonne humeur. Gigi, l'étudiante en art bougonne. John, l'étudiant en lettres coincées. Et Mick, le beau photographe. 5 colocataires avec 2 chattes. Bah alors, 2 minettes, hein, voilà. Dans un appartement parisien. Ils sont complémentaires, s'entendent bien, tout va pour le mieux. Mais des phénomènes étranges mettent la puce à l'oreille des jeunes, et surtout à celle de la voisine voyante. Celle-ci est catégorique, un alien se cache parmi eux.
Attends, donc ils sont combien dans l'appartement ?
4, plus 2 chats.
4, plus 2 chats. Un appartement parisien fait une surface moyenne de 18 mètres carrés, soit environ 40 mètres cubes. Comment veux-tu planquer là-dedans un alien à moins qu'il soit d'une dimension microscopique ?
Non, ce n'est pas ça. L'alien, tu n'as pas compris, est l'un des colocataires.
Ah, d'accord.
Donc, okay, ouais, à partir du moment où la voisine voyante leur dit « l'un de vous est un alien », ça va être, pour la suite, une suspicion générale. Sachant
Suspicion,
oui, pardon. Entre deux courses de chats au plafond, des ombres suspectes glissant le long des murs, des câbles en lévitation et des crises de somnambulisme, la solide amitié des colocataires est mise à rude épreuve.
Ça, c'est pas des signes inquiétants, ça m'arrive tout le temps chez moi.
Oui, des câbles en lévitation. Ah oui, eux aussi. Ouais. Alors, donc 4 tomes prévus au final, je l'ai dit. Alors, ce qui frappe, alors moi ça m'a rappelé, bon, toute proportion mise à part, je vais pas relancer le débat sur les codes de manga plus ou moins digérés par des Français ou pas, est-ce que c'est une imitation ou pas. Toujours est-il que ça m'a beaucoup fait penser au niveau de la quotidienneté du récit, sur le public visé qui est plutôt globalement féminin, sur des personnages qui sont vraiment attachants à Nana. Franchement, ça m'a rappelé Nana, surtout cette idée de la colocation entre jeunes, avec des préoccupations de jeunes également. Moi, je trouve que les personnages sont plutôt en élégance. On a des ambiances claires en niveau de gris, donc c'est encore une fois, ça prouve vraiment l'ancrage de la BD dans le secteur féminin. Donc c'est plutôt un shoujo manga. Moi, franchement, j'ai lu les 3 tomes d'une traite. Alors, je suis pas d'habitude trop féru de manga pour filles, mais je trouve que l'histoire tient la route et je trouve qu'on s'attache à ces personnages-là. Ça se lit assez vite, puisque on n'a pas une surdose d'informations dans chaque planche. Mais voilà, c'est tranquille. Alors, ça se déroule sur une année scolaire. Chaque tome correspond à une saison. Donc ça se tient, c'est-à-dire ça commence par l'automne, ensuite le deuxième tome, mais ils sont tous en pull, quand ils sortent, il neige, ils ont des grosses écharpes, ensuite c'est le printemps, et bon, évidemment, la série va se clôturer sur l'été. Moi, j'ai bien aimé. Je le conseille à ceux qui aiment bien les mangas, mais qui, voilà, ça les dérange pas de lire du manga français. C'est une série courte, donc 4 tomes, donc ils mettront pas beaucoup de pognon là-dedans. Et puis, c'est vrai que c'est une série qui, ça fait du bien à la tête, quoi. C'est pas une série où tu te prends, où tu réfléchis beaucoup. Et puis, en plus, c'est un jeu du chat et la souris qui est rigolo, parce que tu sais qu'il y a un alien dedans. Alors finalement, au fur et à mesure des tomes, tu te demandes si c'est un alien ou si c'est pas plutôt un ange. Et en fait, le talent de conteur du scénariste, qui est aussi dessinateur, vise à flouter les pistes successives qu'il met devant le lecteur. C'est-à-dire, à un moment donné, tout porte à croire que c'est l'un précisément. En fait, finalement, tu vas te dire que c'est plutôt un autre. Et tu te dis, est-ce qu'il serait pas les 4 concerné par cette double identité. Et donc c'est des grosses crises d'identité. On voit que c'est, bon voilà, ce sont des jeunes qui se cherchent, il y a un peu de flirt aussi entre eux, etc. Il y a des jalousies. Franchement, je trouve, au risque de me répéter, c'est une série très très positive et une série attachante. Voilà, ça s'appelle Appartement 44, c'est dans le label Kuri, donc le label Kuri, label manga de Ankama. L'auteur est Dara, voilà, c'est une série en 4 tomes, pour l'instant 3 tomes parus. Alors JB tire la langue, évidemment, c'est du manga sucré. Alors il faut dire que JB...
Non, mais je le comprends un peu aussi, en cette saison c'est un peu écœurant autant de sucre.
Oui, voilà, pour ceux qui sont habitués à clôturer tous les repas par des glaces, oui, on a un peu notre dose de sucré. Mais appartement 44...
Le dessin des couves est quand même déjà hyper bien léché.
Il est léché, ouais, tu as une maîtrise,
beau,
quand même. Hein, tu as une maîtrise.
Non, mais c'est impressionnant. Hein.
Ouais. Voilà, donc série en 4 tomes et 3 tomes parus pour l'instant. Je sais pas trop quand on sortira le 4e tome, voilà.
On va respirer un petit peu.
On va respirer.
Non.
Bon, on respire direct. Après la prochaine alors. Alors cette fois-ci, on change totalement d'ambiance, puis ça s'appelle City Hall. Et City Hall, c'est pas du tout shoujo. Pour vendre un petit peu cette BD, cette série, alors c'est une série qui comportera 3 tomes. Moi j'ai trouvé que c'était un croisement entre Death Note, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires et Steam Boy. Alors c'est aussi un manga français. Alors d'ailleurs je vais le passer à JB aussi pour qu'il se fasse une idée. Alors Londres, début du 20e siècle. Bienvenue dans un monde où ce que l'on écrit prend vie. Et la musique est un peu trop forte, je m'entends pas parler. Merci.
Excuse-moi, je suis en train de préparer les fonds sponsors.
Mais le papier a été interdit depuis que certains écrivains mal intentionnés ont failli précipiter le monde dans le chaos. Mais alors que ces temps sombres ont disparu de la mémoire collective, des manuscrits meurtriers sont retrouvés sur des cadavres. La police de City Hall n'a ainsi d'autre choix que de faire appel à deux as de la plume, Jules Verne et Arthur Conan Doyle, qui seront nos deux détectives de choc. Ils ne seront pas trop de deux pour contrecarrer les plans du redoutable Lord Blackfall. C'est le méchant qui est masqué. Un trio dynamique. Arthur et Jules sont rejoints par la pétillante, très sexy, mais pas commode du tout, Amelia Earhart, qui est leur garde du corps. Et on a des personnages drôles, attachants, on a un cadre steampunk des plus costauds et crédibles, un méchant mystérieux, qui est distingué lui aussi, il est redoutable, on a des ingrédients, tous les ingrédients sont finalement réunis pour faire de cette série en 3 tomes, une grosse référence, enfin à mon sens, du manga d'aventure à la française. Alors, moi, évidemment, ça m'a évoqué vraiment Death Note, et pas au niveau des livres sur lesquels tu écris, et ça permet de créer dans l'histoire des paper cuts, donc ce sont des créatures de papier, mais au départ, ce sont des papiers, mais tu peux dire qu'elles sont en métal, en bois, etc. Mais aussi dans le graphisme. Moi, je trouve que vraiment, la précision mathématique des personnages imaginés par le duo Obata-Oba pour Death Note, on retrouve un petit peu cette influence-là dans City Hall, et pas que pour le mauvais, c'est-à-dire encore une fois, c'est comme pour Appartement 44, on ne sent pas trop le français qui va copier du manga et qui va ne pas s'approprier les codes. Je trouve que c'est parfaitement digéré, même si on voit pas trop de personnalité derrière, on voit du manga un peu mainstream au niveau du character design, même si certains personnages manquent un petit peu d'originalité, on voit quand même que c'est du costaud, que c'est du carré, que c'est de sans reproche. C'est vraiment du design comme tu pourrais en voir dans plein de mangas. Alors c'est aussi ce qui fait la force et la faiblesse, c'est-à-dire si tu lis du manga français, c'est pas pour retrouver du manga japonais, mais pour ceux qui sont férus de manga d'aventure et d'histoires bien torchées et tout, vous aurez tous les ingrédients. Le scénario est signé Rémi Guérin, donc il affiche clairement ses références Death Note, mais aussi j'ai vu un peu de Full Metal Alchemist par rapport au fait que la magie, c'est un peu un mélange de magie et de science. Le dessin Guillaume Lapeyre, franchement moi je suis assez fan. un design assez intéressant, très costaud, et une précision, une maîtrise quand même qui m'ont impressionné. Après je sais pas pour des férus vraiment de manga ce qu'ils en penseront, mais voilà. On a donc du caractère design en béton armé, on a du steampunk, du background scénaristique costaud, ça fait une très très bonne série en devenir. On va dire que le background, alors ce premier tome quand même a le mérite de compiler pas mal de trucs. Il présente un background avec des longues explications très costauds. On a des présentations plus que beaucoup moins que succinctes des personnages, parce qu'on a vraiment qu'est-ce qu'ils ont été avant. On prend le temps de sympathiser avec eux. C'est pas juste ah bonjour, je suis là, je suis déjà dans le bain. On apprendra à te connaître après. Non. Déjà on sympathise bien avec les personnages. On en a pas mal déjà. On en a pas qu'un ou deux. On en a une bonne tripotée. On a déjà des bastons à grande échelle. C'est des villes qui sont détruites, etc. On voit toute la maestria. On dirait que les auteurs ont voulu à tout prix mettre tous les ingrédients qu'il y aura dans leur tome, dans leur série de 3 tomes, pour essayer de fidéliser le plus tôt possible des futurs lecteurs. Moi j'ai été impressionné. Après je vois JB qui est en train de...
C'est pas mal.
Ouais.
C'est bon. Pas mal, ouais. Effectivement,
je dirai en aparté ce que j'ai pensé du premier... des premiers mangas que tu m'as montré là, mais celui-ci, oui, très correct.
Puis c'est aussi une série qui nous parle plus parce que il y a un cadre steampunk, c'est le Londres du début du 20e, alors que bon voilà, c'est.
J'avoue que le steampunk me plaît énormément. Bon, le côté un petit peu gentleman extraordinaire version manga, je suis un peu moins fan. Mais il y a des idées intéressantes.
Voilà, donc City Hall, tome 1, par Lapère et Guérin. C'est toujours dans le label Curie, dans Kama Édition. Et voilà, c'est une série qu'on vous recommande. Et c'est une série également en 3 tomes. Donc vous n'aurez pas à mettre beaucoup de thunes dans cette nouvelle série qui vient de paraître il y a, je crois, le mois dernier.
Des Français qui portent un nom japonais, ça s'appelle Pinku no Izu. Qui est la japonisation en fait du mot Brie Rose. C'est leur premier album, s'appelle Free Time, et c'est le morceau qu'on va écouter, c'est Cyborg Manifesto. Je le retrouverai pas à temps. Donc on vient d'écouter Pinku no Izu, Cyborg Manifesto, et donc le single qu'on essayait de vous faire écouter, donc il faut retrouver
le CD physiquement.
Le CD physiquement, qui est un single dans un tas de 500 CD.
Oh.
Et du sport qui me dit bah si, tu vas le retrouver là.
Ah mais c'est chouette ce que tu as passé. Non, j'aime bien.
Non mais on a encore jusqu'à la fin on a encore jusqu'à la fin de l'émission pour le retrouver.
Tout à fait. Il est midi et 36 minutes 40 secondes et 976 millièmes sur l'accélérateur atomique de la radio. Vous écoutez le supplément week-end numéro 318. Et Thomas reste dans le manga qui ne vient pas de l'Est mais du Nord.
Alors là, c'est pas du manga du tout. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi tu dis ça, puisque ça s'appelle Théotl.
Tu m'avais dit. Enfin, c'est ton résumé, hein.
Oui, j'ai dit que c'était du Super Sentai, mais je n'ai jamais dit que c'était du manga. Ah ah, attention, gare au raccourci, petit scarabée.
Ok.
Alors Théotle, j'avais déjà chroniqué le tome 1 sur cette antenne, et sachant qu'il y avait JB qui n'est pas là tout le temps, je me suis dit, si le tome 2 lui plaît, pour toi, pourquoi ne pas ramener le tome 1. Donc voilà, je pense à mes petits camarades. Donc c'est un album au format franco-belge en cartonné. Alors je prends la mauvaise fiche, voilà. Théotle, comme dirait Tabasco, le héros de l'histoire, on est passé direct des champions des branleurs à protecteurs du monde. Accompagné de Lucie, voilà notre glandeur habitué des salles de jeux vidéo, habillé d'un costume moulant et flashy, confronté à un bœuf mutant et teigneux. Oui, vous avez bien entendu, un bœuf mutant et teigneux. Lancé dans le grand bain par les deux dieux facétieux Araorus et Sepatep, les jeunes défenseurs de l'humanité n'ont pas fini d'en baver et ne sont pas au bout de leur surprise, d'autant qu'ils ne sont pas les seuls pressentis pour revêtir ces drôles d'habits de lumière et plus ses affinités. Alors, le tome 1 s'appelait Araorus, du nom du premier dieu aztèque, le tome 2 s'appelle donc Sepatep, du nom de son acolyte. Alors, si vous aviez déjà écouté ma chronique sur le tome 1, vous savez que c'est un mélange entre du Super Sentai, c'est-à-dire Ultraman, Bioman, Xor, avec de la mythologie aztèque, remixée avec une époque, ça se passe en France. Enfin, voilà, c'est plutôt des jeunes qui nous parlent à nous, hein. Donc ce sont des branleurs en fait qui sont mandatés par des dieux aztèques parce qu'il y en a un qui s'est pris le jus sur une bande d'arcade et il y a un dieu aztèque qui lui dit hey, bande de jeunes, je vous ai élus pour être les défenseurs de l'humanité.
Here comes a new challenger.
Voilà, exactement. Alors on les voit très clairement jouer à Street Fighter dans le premier tome, donc l'auteur n'a pas peur du tout de ses références. Alors évidemment l'auteur, si on dit que c'est Toth, directeur artistique d'Ankama et déjà scénariste de Dofus, on voit que lui s'en fout hein, complètement si on parle du Street Fighter. Bon voilà. Ce deuxième tome, très très loin d'être dans la mouvance on rigole, on est décomplexé du tome 1, là on est vraiment dans le beaucoup plus noir, puisqu'il se passe des trucs vraiment pas sympas pour l'un de nos deux héros. Alors là, cette fois-ci, alors c'est très marrant parce que. La dessinatrice, donc c'est elle qui a apporté le projet Ankama, mais elle manquait un peu de structure, donc c'est le directeur artistique de la boîte qui l'a un peu remanié. On est clairement, alors si je vous dis, un jeune qui est un peu réfractaire à défendre une humanité qui ne lui parle pas trop, va
oui,
devoir
bon, d'accord.
défendre l'humanité contre des espèces de créatures venues d'on ne sait trop où. Il est mandaté par une force paternelle derrière lui, qui lui dit, bon, tu poses pas de questions, tu mets le costume, puis voilà. Sachant qu'il y a aussi des espèces de mechas où il va devoir entrer. Vous dites
Mutafukaz ?
J'ai pas suivi.
Non, vous dites Évangélion, mais
ah,
vous,
merde
vous réécouterez oh, après. Non, mais ça fait plaisir, parce que... Non, Xavier, il écoute aucune de mes chroniques depuis le début.
Bah non, mais je me méfie de tes résumés, maintenant. Tu m'as dit résumé, ambiance Super Sentai, entre mythologie aztèque et Évangélion.
Honnêtement, j'ai un petit doute, parce qu'à un moment, t'as parlé d'ange, mais avec le truc, il m'a... Bref.
Y'a pas de souci. Alors, Théotl...
Avec qu'à suivre.
Théotl, voilà, donc c'est voilà, la référence à Évangélion est totalement assumée, notamment au niveau du côté sombre et violent. Donc j'étais assez surpris dans ce tome 2, puisque j'avais passé le tome 1 à rigoler. Là, le tome 2, j'ai dit, ah ouais, là, c'est pas du tout rigolo. Surtout qu'il y a aussi d'autres défenseurs de l'humanité qui ont des moyens un peu plus, on va dire, terrestres. Alors tu te dis, mais oulala, mais où ça va cette série? Il y a un fort potentiel scénaristique qu'on n'aurait pas du tout deviné dans le 1. Et puis surtout, enfin c'est marrant parce que les deux dieux que tu vois dans le 1, comment ils finissent dans le 2, ils passent clairement la totalité de l'album à se torcher la gueule à la bière quoi. Et pendant ce temps il y a leurs protégés qui sont complètement tabassés par les méchants et tu te dis mais c'est quoi ces trucs. C'est quoi ce truc, voilà. Donc si vous ajoutez à ça le découpage des planches qui sont toutes en lanière horizontale, ça fait très 16-9. Très travelling cinéma. Moi je trouve, en plus, il y a une pagination assez conséquente. Tu as ouais, une ambiance colorée qui est vraiment costaud, avec un jeu de trame et des ambiances vraiment, je trouve, vraiment jolies. même si on n'est pas dans la dessinatrice ne rechigne pas à vraiment à sursaturer ses ambiances pour aller vraiment dans l'ambiance décomplexée du Super Sentai, mais je trouve qu'on a un cocktail détonnant et qui fonctionne pas mal. Alors on va pas je vais pas vous dire que c'est une série qui prend beaucoup de temps à lire, hein. Vous le prenez avec vos toilettes ou en vacances, ça se lit très 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 vite. Mais voilà, vous avez c'est un bel objet parce que c'est une couverture brillante. On a des cadrages et un soin tout particulier à apporter au caractère design et au mecha. Donc, je trouve que il y a quand même de l'ambition derrière. C'est pas juste une BD rigolote où on va passer notre temps à se marrer en disant qu'est-ce qu'ils sont cons ou voilà. Donc c'est un peu plus que ça. Et puis un cocktail évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre le côté sombre et le côté rigolo, vraiment qui te laisse un peu. Tu sais pas trop sur quel pied danser, quoi, voilà. Donc Théot, tome 2, ça s'appelle C'est pas Tep. C'est scénarisé par Tot et dessiné par Mididi, toujours chez Ankama. Voilà, je trouve que c'est une série qui vaut le coup aussi.
Ok. Attends, je vais l'appeler parce qu'en fait, il est là-haut, alors franchement, c'est un petit peu agaçant. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux que je dise, hein?
J'en sais rien, moi. Oui.
Tu crois qu'il va répondre? Non, il va me faire le coup.
Ouais.
Ouais, ouais, dis Duce, tu peux pas me le trouver, le single? Parce que franchement, là, sur le réseau, je le retrouve pas. Ça va être un petit peu compliqué, quoi.
Tu cherches sur YouTube, alors.
Enfoiré.
Merci, Duce. Ça fait un peu. Attends, ça fait un peu la carte au trésor de Dieu le veut, là. Le fil rouge de l'émission. Oui, nous n'avons pas abandonné, chers auditeurs.
C'est avec le caméraman qui est en train de courir. Il y avait une parodie qui était très drôle. T'as le caméraman qui plonge à l'eau au bout d'un moment. Enfin, c'est.
Je crois que du sport, nous l'avons perdu. Il est dans la recherche de singles en haut.
Ouais. Ah, pas que ça. Pendant ce temps-là, on va. Changer de boîte d'édition de bande dessinée filiale d'une boîte d'édition de jeux vidéo, puisque je vais vous parler d'un truc qui. D'un machin. Voilà. Et oui, mais c'est très bien. C'est Titom qui scénarise, c'est Romain Pluot qui le dessine, ça s'appelle The Lapin Crétin. Le tome 1 s'appelle BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Non, il y en a 9.
Il y en a un qui est caché.
Non, non, il y en a un qui est caché.
Oh, mais il y en a plusieurs
non.
cachés.
Non, mais tu peux le voir derrière sur la tranche.
Non, mais sur la tranche intérieure, tous ils sont sur 10 sur le dossier de presse et tout. Non, il y en a 10.
D'accord.
Bref, oui, parce que le type s'est pas embêté à recompter l'air. Il a fait un copier-coller et puis voilà, quand il a fait la maquette. Bref, les lapins crétins sont arrivés comme au départ les méchants de Rayman dans le jeu qui était sorti en 2008. Rayman contre les lapins crétins.
2006,
oui. Enfin annoncé officiellement 2006 et finalement qui est arrivé début 2007 en France. Alors Rayman, c'est un héros sympa, volontaire et tout ce que vous voulez, mais face au lapin crétin, bah, il n'est finalement pas très intéressant, ce personnage complètement démembré avec des mains qui flottent dans l'air. Les dites bestioles, les lapins en question, elles font n'importe quoi, le grain de folie complètement débile, voulant mimer des humains en n'ayant absolument rien compris. Les rois de la démarche stupide. Et face à une impasse, le grand qui est un mélange improbable entre le cri de guerre lors des soldes ou le hurlement de désespoir devant la déclaration d'impôt. Bref, dès le premier jeu vidéo qui leur fut entièrement consacré, ce fut un carton. Et les personnages furent tellement emblématiques qu'ils furent récupérés pour les pubs d'un constructeur automobile, n'hésitant pas à malmener, voire à massacrer les véhicules en question. C'est quand même un petit peu ce qu'on ne fait pas généralement dans la pub, à massacrer le produit. Et ben eux, ils y étaient allés à fond. Ça avait marché. Iconoclaste, imprévisible, donc marrant, pas en cuir noir et crade comme des punks, mais d'une délicate fourrure blanche bien léchée, donc mignon, donc marrant. Bref, le premier tome, bien évidemment, c'est le format industriel franco-belge de la blague en bande dessinée. 48 pages, format A4, couleur cartonnée. Évidemment, c'est sommaire. Les auteurs n'ont pas forcément tous les gars qui tombent juste ou un graphisme parfait. Loin de là. Mais on s'en fout. On est là pour se marrer d'une immense crétinerie. Et comme le succès du jeu vient aussi du casual gaming, ce sont des petits jeux que l'on peut piocher au hasard pour s'éclater 5 minutes. Bah pour la BD, c'est pareil. Tu l'ouvres, tu le lis. Il se peut que ça te fasse marrer, j'ai dit il se peut. Tu refermes le bouquin et tu ressors des toilettes avec la bambousse des bouches évier et en hurlant. En faisant exactement dit ça.
C'est un bon résumé de l'humour de la BD, ouais.
Bref, Titom et Puyol arrivent néanmoins à s'approprier les personnages en tentant de jouer avec le personnage BD. Moi, j'aime bien le coup du poster central et tout ça. Donc, justement, ils jouent un petit peu avec le support, voire avec des références avec d'autres héros de papier. Alors, oui, c'est con. C'est parfaitement stupide. Mais alors, qu'est-ce qu'on se poêle de carottes, quand même?
Je dirais pas qu'est-ce qu'on se... Ouais, ouais, c'est pour le jeu de mots, mais... Ah, par exemple, au
ouais,
début...
Ouais, non, mais attends, j'allais pas le faire pour toi.
Ah, pardon, t'as pas fini?
Si, si, j'ai fini. Ah, je vais donner les références et tout, vas-y.
Ouais. Non, bah, en fait, au début, t'as... première page. Attention, vous n'êtes pas au début de l'album. Pour vous y rendre, veuillez suivre les indications de la page 48. Donc tu vas à page 48. Et rien marqué. Bravo, vous y êtes presque. Alors, c'est un lapin crétin déguisé en employé de la DDE avec un panneau déviation. Maintenant, allez page 4 et recommencez la lecture. Sinon, pour surfer sur ce que tu disais, effectivement, en fait, tu sais pas trop si tu dois rire tellement c'est con ou c'est tellement con que t'as pas envie de rire parce que c'est vraiment trop débile. Alors, il y a quelques planches où ils ont trouvé quand même le dosage où c'est con et tu ris, mais alors, la plupart.
C'est très brouillon et on sent qu'il y a une maîtrise qui est franchement ultra approximative. Mais,
oui.
Mais je veux dire, c'est un truc, tu l'achètes en connaissance de cause. Donc, pour justement des auteurs qui, de ce côté-là, bah, c'est une bonne occasion pour débuter. Quoi.
Bah après, c'est clair que c'est plutôt, avec le côté péjoratif qui va dedans, c'est plutôt une BD à offrir. Tu l'achètes, mais pas pour toi.
Ah, c'est clair.
Voilà, tu dis, tiens, allez. Tu
je sais, offres, j'y ai songé à ton anniv.
Non, mais je le connais, il aurait pas fait ça de toute façon.
De toute façon, il faut que je méfie parce que c'est bientôt le mien.
Le jour où il te fait ça, tu ne l'invites plus l'année d'après.
Non, mais si tu veux, je connais bien Loustic, c'est qu'il il sait que quand tu offres quelque chose à quelqu'un, en fait, c'est ton image que tu mets en jeu. Et je sais que Xavier ne bousillera jamais son image en m'offrant des lapins crétins.
Non, il est
comme âge.
Hein, il y a une image,
monsieur. S'il vous plaît, on fait de la radio, ça n'est pas très radiophonique quand on parle d'image là. S'il vous plaît, Titom au scénario, Romain Puyol au dessin, The Lapin Crétin, le tome 1 s'appelle Bah et c'est édité par Les Deux Royaumes.
T'as oublié le mot W, c'est Bouah.
J'ai lu dans la Wikipédia qu'en fait c'est le cri d'un des développeurs. Et quand le chef de projet passait dans les bureaux, il a entendu un il a dit bon allez toi tu files en studio son tu et c'est lui qui fait tous les bois du coup. C'est bien hein, t'es développeur, on peut te remplacer par n'importe qui sauf pour le cri. Apollo au scénario, Serge Huo Cha aussi au dessin.
Sinon, petite parenthèse.
Oh merde, bon, oui, vas-y, ok.
Du sport est passé juste pour nous donner le courrier en fait. Il est reparti là.
Ouais, je crois qu'il m'a fait la blague, oui.
D'accord, allez, remets le son alors.
Apollo au scénario, Serge Huo Cha aussi au dessin. La grippe coloniale, le deuxième tome s'appelle Cyclone la peste et vient d'arriver chez Vent d'Ouest et c'est une grande attente. Alors. C'est pas 10 comme j'ai marqué là, c'est 9. Ça fait 9 ans. Donc, après le premier tome, le bouquin arrive. Donc c'est une série qui avait commencé dans Le Cri du Margouilla. C'est un prosine de l'île de la Réunion qui avait fait beaucoup parler de lui de 95 à je sais pas 2005-2006 un prosine qui avait permis donc d'y trouver un nombre remarquable de grands auteurs de bandes dessinées qui ont débuté là-dedans. Preuve que dans ce petit bout de terre au milieu de l'océan Indien, ben, y a vraiment une culture de la bande dessinée qui est assez vivace. C'est là par exemple que sont sortis TM, l'auteur de Manica Secousse et Marie Frisson, qui avait fait la colorisation d'ailleurs du premier tome. Liane, qui avait sorti Planète Lointaine il y a très longtemps et qui sort en ce moment la série Fantôme Blanc. Apollo, le scénariste de cet album, on avait parlé pour Biotope, L'île Bourbon, Commando Colonial, et où qu'on l'a entre autres Guy de Lille, on avait parlé pour Chronique Birmane et plus récemment pour Chronique de Jérusalem, et Ronan Lancelot qui était l'ex-rédacteur en chef de Flic Glacial et qui collabore d'ailleurs au site Actua BD. Bref, quand on lit Le Cri du Margouilla, c'est un titre méconnu mais foisonnant de la bande dessinée que l'on découvre à chaque fois. La première partie de La Grippe Coloniale avait obtenu le prix de la critique à CBD en 2003. Inutile de dire que l'annonce de sa suite était franchement attendu par ceux qui l'avaient lu et qui avaient vraiment apprécié quand même ce bouquin.
Fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire français a envoyé ses enfants de la métropole et les indigènes soutenir l'effort de guerre. Ils sont revenus, certains les pieds devant, d'autres les gueules cassées et certains avec un petit truc en plus. Dans les tranchées, les poilus sont allés au-delà de leurs origines différentes, des barrières sociales. Ils y ont forgé une amitié solide. C'est le cas de Camille, Évariste, Grondin et Voltaire, les quatre personnages autour duquel s'articulait en fait le premier tome. Mais lors de leur retour à l'île de la Réunion, ce petit bout de terre carrefour entre les Indes, l'Océanie et l'Afrique, ce n'est pas l'esprit français victorieux qui domine, mais la grippe espagnole qui fait des ravages. Face à la mort, les hauts fonctionnaires, les riches blancs, les pauvres blancs, les métis, les noirs, les indis, les chinois, tous sont égaux. Ils tomberont malades et certains mourront. La pandémie de la grippe espagnole de 1918 fera entre 30 et 100 millions de morts, bien au-delà des 10 millions de morts de la Première Guerre mondiale. Bah oui, finalement, c'est elle qui avait vraiment le plus tué. Et elle se caractérisera par une contamination très rapide des populations et l'absence de moyens de lutte contre les vaccins. Grondin et la belle Marie profitent de ses talents d'herboriste pour concocter et vendre un remède supposé efficace contre la grippe, un rhume arrangé aux herbes que les habitants en paient à prix d'or. Évariste est missionné pour collecter des cadavres laissés à l'abandon dans les rues. Voltaire rêve de voir la belle Irma. Bref, chacun survit comme il peut. Mais peu qui ont connu la guerre ne semblent même plus s'offusquer de l'horreur quotidienne dont la ville de Saint-Denis est devenue le théâtre. Le dessin semble guilleret, un peu parodique, ce qui désamorce les scènes horribles comme l'état de cadavres. Les expressions, le créole qui arrive par moments donne une réelle saveur au dialogue. Comme évidemment les auteurs sont locaux, le dessin est franchement précis, la documentation infaillible, il y a à la fois du roman, mais aussi de la reconstitution historique. C'est une BD qui donne un éclairage intéressant sur les colonies françaises, les différentes populations qui sont mélangées, et de par le fait de la guerre, mais aussi d'une maladie qui a fait bien plus de ravages finalement que la Première Guerre mondiale qui avait eu lieu en même temps. Donc je ne peux que vous le recommander, La grippe coloniale, le tome 2 s'appelle Cyclone la peste, de Apollo et Ho Chao aussi. C'est aux éditions Vent d'Ouest, et franchement, ouais. Vous allez vraiment l'adorer et l'apprécier. Radio FMR, il est midi 54, on fait une petite pause musicale. Ils étaient venus à Toulouse pour le THSF, mince, c'est Philastine, voilà le nom. Et on écoute extrait leur album Lot Shanty Tones. We'll be right back. Oui, bon, ça va, ça va, ça va. C'était Philastine, c'est pas ma faute si les graves, c'était vraiment grave. Et en plus, il y avait un abruti qui a dit oh, je veux mettre plus de graves sur le son de la table. Donc, forcément, voilà. Shantytones, ils étaient passés donc fin mai en concert, où à ce qui paraît, ça avait vraiment déchiré. Ouais, c'est dans le cas de la BD franco-belge, du coup. Ah oui, j'ai oublié de dire pourquoi j'ai programmé Philastine, c'est parce qu'en fait, ils sont d'Indonésie.
D'accord.
Voilà. C'était un peu dans l'ambiance de la grippe coloniale.
Alors nous enchaînons cette fois-ci avec de la bande dessinée franco-belge dans la plus pure tradition qui s'appelle Gringos Locos de Yann et Schwartz. D'ailleurs JB l'a lu donc c'est à JB cet album, c'est lui qui va faire la chronique. Tiens.
Voilà, et eh ben je me suis régalé.
Et c'était un bouquin qui était attendu depuis un bail.
Oui, alors effectivement.
Mais peut-être qu'il faut d'abord parler du bouquin lui-même.
C'est ce que j'allais dire, merci de ne pas me couper. Hein. Bref. Donc en clair, Schwartz et Yann ont décidé d'adapter la vie
d'auteur de bande.
J'arrête. Merci. Sinon on te vire la console. Tu peux y aller à sa place là et tu le frappes en même temps. Donc Yann, le scénariste, a décidé de prendre une tranche de vie de trois auteurs très connus dans le monde de la bande dessinée qui sont évidemment Maurice, le papa de Lucky Luke, Franquin. On vous dit pas qui c'est, tout le monde le connaît. Et Gigé, si je me souviens bien.
Gigé, ouais.
Et qui, peu après la Deuxième Guerre mondiale, étaient partis de leur Belgique natale pour les États-Unis en décidant on va aux États-Unis et on va se faire signer chez Disney, les doigts dans le nez, ça va marcher. Sauf que, comble de malheur, ils partent avec toute la. Ils partent tous les trois, plus la Smala de Gigé, donc sa femme et ses trois enfants. Je parlerai des enfants après, hein, c'est fait exprès. Pour faire ce périple, pour aller donc en Californie retrouver Monsieur Walt Disney pour se faire embaucher, et malheureusement, ils arrivent à un moment qui ne marche pas très bien pour Disney et qui actuellement justement est en train de licencier. Donc comble pour eux. Et en fait, l'histoire va raconter donc la péripétie américaine de ces trois auteurs. Je te le passe.
Merci, puis je suis venu à côté. Oui, puisque c'était la fin de l'âge d'or en fait.
Hein. C'était voilà. La fin de l'âge.
C'est en 48.
Ouais, 148. Ouais. C'est pas. C'est un autre âge d'or que l'on pense. Ouais. Et ça va être l'histoire, les péripéties de ces trois. De ces trois grands dessinateurs. À qui. Bon, le ton est totalement romancé pour que ça donne un rythme à la BD, que ça donne des moments de bonheur. Et chaque planche, chaque page est un. C'est du réel plaisir à le lire. Évidemment, c'est tellement romancé que, arrivé ce qui devait arriver, Dupuis n'avait pas fait. Avait fait dans l'amateurisme par rapport aux ayants droit, n'avait pas trop cherché à expliquer, ben voilà, ça sera ça.
Ils n'ont pas pensé surtout à se bétonner en disant aux ayants droit, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de problème.
Voilà. Et c'était sorti en pré-publication dans leur journal Spirou, très bien. Et au moment de la sortie de l'album, là, les ayants droit ont commencé à se réveiller, à dire non, non, nous on veut pas, on est dans la BD, on est. C'est surtout les enfants de JG. Ils sont quatre enfants, mais il n'y en a que trois dans ce tome-là, puisque le quatrième viendra après 1948. Et les ayants droit ont dit non, nous on est représentés, ça nous convient pas cette vision de la BD par rapport à la réalité. C'est trop différent et ça donne une vision totalement faussée. Et les lecteurs vont garder cette image-là plutôt que la réalité. Effectivement, on voit un JG assez bourrin, un peu bête, un peu bout de décoffrage, mais quand même sympathique. On trouve Franquin qui fait le grand jeûner un peu bené, très correct.
Oui, non, d'ailleurs, la bande dessinée entretient de quoi Franquin va s'inspirer pour ses personnages après. Donc, il y a quelques petits clins d'œil qui sont disséminés.
Il y a effectivement un joli clin d'œil à Gaston à un moment.
Oui, mais là, c'est complètement romancé. Hein. Yann l'avait dit dans son
Tout
interview.
À fait. Il l'avait dit au départ.
Ceci dit, il était très fier de.
Il s'était pas blindé.
Ouais, mais il s'était appuyé aussi sur des témoignages de Maurice. Je crois, c'est Maurice
sur
ou Maurice, et Franquin.
Maurice, de Franquin avec qui il s'entendait très bien, parce que Yann n'est pas un petit jeune, je vous le rappelle. C'est le duo où ils ont commencé, c'était Yann et Conrad, avec les Innobables et les Hautes Pages dans Spirou. Et je parle de ça d'un temps.
77-78. Hein.
C'était 79-82, un truc comme ça. Mmh. Et
enfin, il avait commencé par les petits culs de lampe et tout ça, mais déjà il était très copain effectivement avec toute cette bande.
Ouais, ouais, toute cette bande. Et donc il a pu égrener des informations au fur et à mesure des années, des petites anecdotes de ci et de là. Il entendait une anecdote de l'un, il allait voir l'autre. Eh, ouais, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Pour savoir un petit peu d'autres sons de cloche, évidemment. Et bon, voilà, au moment de la sortie de l'album, petit couac, les ayants droit refusent et ils sont dans leur droit de. Et là, bon, Dupuis a commencé à négocier avec eux. Est-ce qu'on peut incorporer dans le fascicule, enfin, dans la BD, un petit fascicule, un reportage exprimant vos rectificatifs, votre droit de réponse? Et on retrouve donc cette jolie BD, trois mois plus tard, enfin sur notre libraire, où on voit la BD plus le fascicule qui est incorporé, et c'est du plaisir, franchement du plaisir, de vous raconter de lire une histoire qui est réussie, autant du dessin, autant du scénario et des gags, tout ce qu'il faut, et en même temps la profondeur qui est rapportée avec le fascicule, qui est mise en abîme de tout ce qu'on a pu lire juste avant.
Alors, je vois Xavier rigoler
lire,
parce que
je suis en train de lire effectivement du brouillon. Gasson, il est pas mal. Ouais.
On a une planche où on voit effectivement des idées comme quoi Franquin invente un Gaston mexicain et qui est pas piqué des verres.
De Arridanto de Trabarro. C'est très très bon.
Et super. Franchement.
Alors, il faut préciser quand même que bon, Xavier est très bon public, mais il s'esclaffe. Mmh. Mais c'est plutôt de la comédie tendre et on rit pas aux éclats, c'est on sourit plutôt. Ça te donne le sourire, mais c'est pas un truc où tu vas rigoler comme un babouin. Bon voilà, c'est fin plutôt comme humour.
Alors ceux qui me connaissent savent que je suis pas du tout bon public et franchement moi je mets un gros coup de cœur pour cette BD parmi les sorties de cette année quoi.
Et alors le fascicule,
de toute façon, tout le monde l'attendait avec une forte impatience, encore plus suite à l'imbroglio juridique avec donc les ayants droit, et en même temps parce que voilà, c'était intéressant justement de romancer autour de ces personnages là et de voir ce que Yann allait en faire, sachant que Yann a quand même fait un très très bon boulot sur Spirou en vert de gris.
Oui.
Et donc c'était absolument évident, il a toujours dit qu'il était, il était extrêmement fan de cette époque là et qu'il voulait parler demain justement de cette épopée complètement délirante où ils sont partis parce qu'ils avaient peur que les Russes atomisent l'Europe.
Mmh. Alors messieurs les ayants droit, mesdames les ayants droit, messieurs de la direction de Dupuis et monsieur Schwarzeggian, si vous voulez bien continuer, nous on aimerait bien quoi.
En tout cas, il y a le fascicule dont tu parlais, c'est pas juste un petit fascicule de 4 pages, c'est du grand format, c'est collé, l'iconographie est soignée, il y a des images d'archives, il y a également c'est du texte en recto verso.
C'est du 10 pages recto verso donné en accordéon.
Voilà, et en plus on a
avec un tract jeté dedans, donc c'était parce que en fait, ces bouquins, ils avaient tiré, je crois, 300 000 exemplaires. Ils étaient prêts à sortir pour Angoulême.
Voilà. Et
ça faisait des palettes. Hein,
ce qu'il y a de bien, c'est que ce sont des entretiens avec Yann et aussi des entretiens avec les ayants droit. Donc on a les deux
points de vue.
Les deux points de vue, ça c'est bien. Ça.
Ouais. Bon boulot alors. Bon boulot éditorial pour rattraper.
Oui. Effectivement, tu me le rappelles, la fin de la BD, tu as tout un entretien de Yann qui explique comment il a eu l'idée, comment il a monté le projet, où il savait que ça pouvait être délicat comme sujet, mais c'était un coup de cœur et franchement on ne peut que applaudir le résultat.
Oh, il raconte par exemple, il y a beaucoup d'anecdotes, mais dont surtout une qui est très rigolote, c'est que il allait recueillir des témoignages, je sais plus si c'est JG, si c'est Franquin ou Maurice, je sais plus, et puis l'auteur en question lui interdisait de prendre des notes. Et ce qui fait que il avait trouvé un stratagème, il allait aux toilettes et il retranscrivait sur un carnet. Et puis à un moment donné, l'auteur il lui dit mais pourquoi tu vas tout le temps aux toilettes? Alors l'autre il a inventé des prétextes. Donc voilà, c'était assez rigolo.
Et il y a beaucoup de choses concrètes. Genre il explique dans les notes que bon, ils font le périple dans une grosse buick, si je me souviens bien là. Et JG avait vraiment sorti, est allé vraiment acheter un vilebrequin
pour faire les trous dans le toit.
Dans le toit, comme ça pouvait faire l'aération dans la voiture. Parce qu'évidemment, je vous dis pas la chaleur qu'il fait, c'est sec. Bienvenue au Mexique, quoi.
Yann au scénario, Schwartz au dessin, Gringos Locos. Espérons que ça soit le tome 1, mais bon, je crois pas.
On ne peut qu'espérer qu'il y aura un tome 2, un tome 3, ainsi de suite. Mais oh. C'est vraiment un bijou. Au moins, lisez le premier, enfin le, ce tome-là, et puis vous verrez.
On passe des très chauds déserts du sud des États-Unis et du Mexique vers la froide et blanche neige. Donc je dis à la régie, tu changes de CD. Oh.
Tu vois, non, je change de place.
Non,
c'est
non, c'est l'autre CD.
C'est même quand même lui qui donne les ordres. Juste, tu fais ce que tu veux.
Ça.
Bah, bon, d'accord, ok. Thomas.
Alors, ça s'appelle Blanche Neige. Alors, maintenant qu'Hollywood... Maintenant que le Hollywood nous pond de l'adaptation de Blanche-Neige en double avec Tarsem et sa Blanche-Neige avec la Julia Roberts en méchante. Après, je sais plus comment il s'appelle, mais l'autre film avec Charlize Theron. Maintenant, on a la BD aussi qui n'est pas du tout une adaptation officielle des deux films. Donc toujours chez Ankama, j'y reviens depuis tout à l'heure, c'est scénarisé par Max Lhermeunier et dessiné par Luki. Il y a bien longtemps, le royaume des neiges était régi par une sorcière, seconde épouse d'un bon roi dont la femme bien-aimée avait péri en mettant au monde son unique fille, Blanche-Neige. La sorcière, avertie par son miroir magique que sa belle-fille la supplanterait un jour, l'a fait abattre par un chasseur, mais ce dernier, tombé sous le charme de la jeune fille, ne peut s'y résoudre et la laisse filer dans les bois. Recueillie par les nains cannibales du royaume voisin, l'héritière du trône des glaces mène une vie paisible, jusqu'au jour où un prince parti fédérer les royaumes contre le joug de la sorcière est mené par le destin devant elle. Alors je vais faire passer cet album à mes copains. Vous verrez que cette
Oui, j'ai repris ma place de réa.
Vous verrez que cette adaptation de Blanche-Neige est plutôt fantasy, bourrine et aventure plutôt que adaptation de Disney. Alors, c'est marrant parce que c'est une histoire de princesse et de prince et de belle qui dort et qui est empoisonnée, mais sans le côté gnangnan. On est plutôt dans le truc un peu rustre, un peu. Voilà, c'est les grosses épées, les gros guerriers.
Ouais, plus proche de l'original en tant que conte gothique.
Voilà.
C'est ce qu'il a dit, c'est ça ?
Non, ouais, bah, c'est à peu près ce que je disais. Et alors, ce que je pourrais reprocher à cette bande dessinée au visuel tout à fait impressionnant, ce serait quand même une trop grande densité. Ils ont tout voulu réunir dans un seul tome, alors qu'il y avait beaucoup de choses à dire. On pouvait faire autre chose. Qu'est-ce qui c'est les royaumes en question, puisqu'on n'en voit que quelques-uns et pas tous. On voit des personnages qui sont intéressants, mais on les voit pas trop non plus, comme le chasseur, qui dans cette histoire est différent du prince. En fait, d'habitude le chasseur c'est l'amoureux, mais là cette fois-ci le chasseur est le bras droit de la sorcière et c'est un prince qui devient amoureux de Blanche-Neige. Le dessin de Luki, donc, il est colorisé par Sébastien Lamiran et surtout il est aidé par Dem pour la visualisation 3D au niveau par exemple des décors. Ça lui a servi à modéliser les décors et à cadrer parfaitement ses personnages, et ensuite il est réintervenu au dessin par-dessus, qui a permis d'économiser du temps pour la recherche de décors, pour voilà. Encore une fois, la bande dessinée est trop courte, c'est-à-dire qu'elle se lit très vite, mais par rapport à la densité graphique et à la densité du scénario, c'est une BD qui se lit trop vite. Donc ça pénalise l'entreprise, puisque ça aurait permis de faire plusieurs tomes à ce que la BD échappe au statut, on va dire, de ersatz commercial pour surfer sur la double sortie hollywoodienne, alors qu'il y a vraiment du potentiel et c'est vraiment intéressant. Le scénario, je l'ai dit, évite le côté gnangnan, il n'est pas révolutionnaire non plus, mais il fait son job, tandis que le visuel, pour moi, vaut le détour. Je trouve que ça va au-delà d'une simple adaptation en bande dessinée du conte. Voilà, donc c'est également, je dirais, c'est une bande dessinée à offrir pour ceux qui aiment bien l'univers Blanche-Neige, l'univers un peu fantasy, moi je ne l'aurais pas acheté pour moi puisque je connais un peu l'histoire et puis je ne trouve pas que la BD se détache suffisamment du matériau de base pour pouvoir l'acheter. Mais après je comprends que les feuilletez là franchement dans les librairies, vous verrez que c'est quand même pas mal et c'est plutôt un bel objet parce qu'il y a aussi des additions graphiques à la fin, il y a des recherches, il y a des notes d'intention également, donc voilà, le format est un peu plus grand que le format franco-belge habituel, voilà. Donc
c'est... Non, c'est le format, ce que j'appelle format héroïque. Hein,
pour, oui, voilà, format héroïque.
Pour héroïque fantasy, et ça ne le dessert absolument pas.
Voilà, donc c'est un plutôt bel objet, encore une fois trop dense, et à la couverture quand même qui est vraiment belle, je trouve, donc voilà. Blanche-Neige par Max Lhermeunier, Lucky, c'est édité chez Ankama.
Forcément, si je reçois le courrier ici, évidemment, tout le monde m'a dit « Ah, attends, ben, je vais le lire et tout, etc. » On en parlera peut-être dans 15 jours, je pense, à moins que Thomas veuille en parler la semaine prochaine. Bayon. Ah, mince. Eh ben, merci. Non, c'est... Hop. Bon, il va partir. Mais pourquoi il est aussi faible? Qui c'est qui a bricolé le... Ah. J'ai pas de son.
Arrête-le avant que...
Ah, punaise, quel embrouille.
Ah ouais, il faut connecter l'appareil.
Ah ouais, je crois que... Pas. D'accord. Il avait amené le lecteur MP3, mais...
Ouais, mais je crois qu'il a oublié un petit peu de brancher.
Bah, c'est pas ça, parce que j'ai passé un coup de fil à du sport tout à l'heure.
Ah ouais.
Excusez-le, c'est un amateur, il est débutant encore.
Ah ouais, c'est vrai, il a pas le cordon multitâche.
Ouais, ça fait 2 mois qu'il est pas là, je te dis pas les bourdes qu'il fait depuis le début de...
Bah ouais, bah je le redémarre, allons-y.
Ouais, mais ça c'est comme le vélo.
Ouais, bah, du lit, pour lui c'est un peu plus difficile quand même.
N'importe quoi.
Le cinéma vient de rebooter. Voilà, bah je savais que j'avais merdé.
Eh oui, on doit. Ah, on a rebooté mon micro. Ah, ça va. Alors aujourd'hui, on va parler forcément d'un reboot. Comme l'a dit Xavier tout à l'heure.
Amazon.
Amazon, oui.
Amazon.
Spider-Man.
Spider-Man. Rien que pour ça.
Allez, on fait une chronique courte.
Ça y est.
On fait une chronique courte. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un reboot de la trilogie de Sam Raimi. Alors, si vous voulez savoir ce que je pense du film de Mark Webb, donc voilà, on va se mettre dans la peau de Sam Raimi. Xavier, je te demande de ne plus tweeter.
Bah, il faut que je dépasse les 50 000 pendant l'émission. Ouais.
Allez.
Il m'en reste que 50.
Alors, on se met dans la peau de Sam Raimi.
30 secondes.
On regarde le film. Voilà.
Oh non. À ce point ?
Bah ouais. Voilà, j'ai chroniqué le film.
D'accord. En même temps, il m'avait prévenu, ça risquait d'être court. D'accord. Et ben donc c'est la, c'est, on peut redonner les caractéristiques du film pendant que.
Allez, The Amazing Spider-Man. Donc c'est un film de Mark Webb. Ça ne s'invente pas. Webb, toile. Oh oh. Avec Andrew Garfield dans le rôle de Peter Parker, Emma Stone. Alors, je suis allé avec madame et pendant tout le film, elle m'a dit mais c'est pas Lindsay Lohan. Non, c'est pas Lindsay Lohan. Oh mais c'est, je te jure, c'est Lindsay Lohan.
Elle joue mieux que Lindsay Lohan.
Voilà. Ouais. Alors Lindsay Lohan, je me souviens d'un souvenir ému dans Machete, mais c'était pas le même genre. Bon bref, Emma Stone dans le rôle de Gwen Stacy. Le méchant, c'est Riff Ifans. Qui joue le rôle de Spike, le coloc de Hugh Grant dans Notting Hill. C'est marrant de le voir dans un autre rôle. Ouais. Dennis Leary,
le papa de Gwen.
Voilà, le papa, c'est l'officier Stacy. On a également Martin Sheen qui joue l'oncle Ben, qui remplace donc Cliff Robertson. Sally Field qui joue Tante May. Campbell Scott, le fils de George C. Scott. Voilà, qui joue quoi déjà?
Bah, il joue le rôle du papa de Parker.
Voilà,
en fait,
le rôle de Monsieur Parker. Voilà. Voilà. Alors, décidément.
Et avec Bette Davis qui joue le rôle de sa femme. Enfin bon, oui. Elle fait juste un petit rôle comme ça. Quoi.
Alors, t'as vu le film donc?
Bah ouais.
Bon, je me disais aussi. Alors, décidé à élucider la disparition mystérieuse de ses parents alors qu'il était encore enfant, l'étudiant Peter Parker décide de fourrer son nez dans le laboratoire de l'ancien collaborateur de son père. Mordu par une araignée modifiée génétiquement, le jeune se découvre un sens de l'araignée infaillible et des réflexes bien pratiques, ainsi que la faculté de se scotcher au mur. Ah oui, au fait, j'ai pas dit, mais le scientifique sur lequel il enquête, alors ça parlera peut-être aux fans de Spider-Man, il s'appelle Kurt Connors.
Bah oui.
Kurt Connors qui est le
lézard.
Le lézard.
Bon, vous le savez ça.
Ouais, mais bon, je fais le pitch, donc qui dit pitch dit, voilà.
T'as un pitch ?
Ouais, j'allais sortir. 16h.
Alors, reboot de la trilogie de Sam Raimi qui avait quand même fait le 1, le 2 et le 3 avec Tobey Maguire. Alors, contrairement à ce que j'ai pu lire un peu ici et là, je crois que c'est dans Première d'ailleurs, qui disait oui, on avait peur après la franchise de Sam Raimi, ne vous inquiétez pas, en voyant Andrew Garfield, la prestation de Tobey Maguire ne sera pour vous plus qu'un lointain souvenir.
Ouais, bon, faut pas pousser quoi.
Je suis désolé, mais il y a pas photo quand même.
Il se démerde bien quand même, le petit Andrew Garfield.
Alors, moi, je dirais pas que c'est sa faute. Je dirais pas que c'est la faute à Garfield. Bon, l'acteur, on l'avait déjà repéré en tant que meilleur ami de Zuckerberg dans le film The Social Network. C'est lui qui se fait entuber du début à la fin dans le film. Et c'est vrai qu'il a une tronche de beau garçon aussi, qui est plus même cinégénique que Tobey Maguire. Alors, encore une fois, je vais parler de madame. Donc, je sais pas si tu y allais avec Christine, mais elle est officiellement amoureuse d'Andrew Garfield, ça y est.
Ah bon, non.
Alors moi je suis désolé, mais c'est aussi le ton du film qui fait que Tobey Maguire, bah, tu t'en souviens, Andrew Garfield c'est quoi, c'est un ersatz de Pattinson, c'est le mec qui est beau gosse, qui fait du skate au lycée, qui va faire des blagues pendant qu'il se déguise, et puis c'est tout quoi. Tobey Maguire, tu te retrouves, Tobey Maguire c'est le loser, c'est le mec qui va avoir une évolution, qui va paraître tour à tour pathétique, grandiloquent, merveilleux, même plus bas que terre. Je trouve qu'il arrivait à faire passer des émotions grâce au traitement du film, grâce à la vision de Raimi, grâce au rôle et au traitement du personnage, que Garfield, il pourra faire ce qu'il veut, mais le Peter Parker New Look, c'est juste un jeune qui se déguise, quoi. Il a pas de profondeur, je trouve.
Non, non, mais c'est vrai que le film est assez plat de ce côté-là, quoi. C'est-à-dire que, on va dire que
c'est vrai
non,
qu'Emma Stone, non, non.
Vous
elle
allez arrêter,
est...
Vous allez arrêter les débats idiots comme ça. Moi, j'ai revu récemment Spider-Man sur TF1, deux jours avant la sortie. Là, ils avaient passé le 2.
Oui.
Ou je crois que c'était la veille. J'étais effondré devant ma télé. Je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que c'est mauvais. J'espère que le nouveau, il rehausse le niveau.
Mais non, t'as vu t'as vu lequel numéro?
C'était le 2.
Bah, le 2, c'est le meilleur. Donc tu connais rien.
Ouais ouais, bon.
Voilà. Le 2 est grandiose.
Si au niveau du scénario, c'est vrai que c'est assez plat et qu'en plus il y a vraiment au niveau de ce reboot un gros problème, enfin à mon avis.
Quand tu dis que c'est assez plat, tu parles pas de la plastique de Kirsten Dunst qui...
Non, pas du tout quoi, mais disons que c'est vrai qu'on rentre pas trop dans les détails quoi de la personnalité de Parker. On se contente sur sa quête en fait et sur les démêlés qu'il a suite aux problèmes qu'engendre sa quête, hein, c'est-à-dire ses rapports avec Gwen Stacy, avec les autres membres, avec Kurt Connors bien sûr, hein, puisque bon bah ils vont se voir plusieurs fois quoi sous différentes formes, hein, ça on peut le révéler quand même. Mais par contre je trouve que les acteurs et l'ensemble du casting a été vraiment très très bien choisi et que dans le cadre d'un reboot c'est assez intéressant parce que bon c'est quelque chose qui se pratique, bon on va pas dire couramment mais qui se pratique relativement souvent dans les comics. Bon moi ça me dérange vraiment pas trop.
Moi non plus, mais après c'est
un changement de tronche,
moi non
un
plus.
Changement d'attitude on va dire. Bon il restera quand même les fondamentaux de Parker et les fondamentaux de Spider-Man de toute façon qui ressortent comme à chaque fois, mais ça c'est la figure imposée, les figures imposées de toute façon de ceux qui veulent faire partie de la franchise Spider-Man. Et sinon moi j'ai trouvé que le film était assez intéressant, à part bon ben l'énormité, bon ben il y a une absence et bon ben ce qui rend un petit peu le scénario plat on va dire au départ l'énormité de la grosse scène on va dire la grosse scène dramatique on va dire, parce que bon bah c'est une énormité quoi par rapport à l'histoire dans les comics quoi.
Alors la grosse scène dramatique c'est la fin
ouais vers la fin, bon on va pas trop dévoiler pour les gens qui l'ont pas encore vu quoi, mais
avec
bon,
le flic,
voilà c'est ça ouais.
D'accord. Okay. Parce que okay. Moi je connaissais mal et je me suis dit tiens on dirait que bon
ouais,
d'accord
ouais,
tu confirmes
ouais. Oui c'est tiens c'est bizarre
oui alors moi je dirais plusieurs choses sur le film. Moi je serais beaucoup moins gentil que toi, je trouve que c'est... alors la
par exemple si tu veux un personnage secondaire comme Flash Thompson est vachement bien exploité je trouve dans ce film,
c'est
pas mal. Flash Thompson c'est le c'est le grand mec balèze du collège et tout, celui qui rentre dans qui l'emplâtre au départ.
Et il est connu dans la BD lui.
Ah bien sûr oui.
Ah
oui tout
d'accord.
À fait ouais.
D'accord. Et il va
oui, parce que par c'est, le hasard c'est... des choses. Bon on va pas dire que c'est le hasard des choses. Actuellement dans les comics il faut dire que bon bah le Dr Connors a refait une apparition. D'accord. Flash Thompson également. Et Flash Thompson qui était parti en Afghanistan est revenu avec deux jambes en moins, donc se balade en fauteuil roulant.
Ah, ok.
D'accord,
je vois.
Okay.
Toi qui dis membre perdu.
Voilà.
D'accord. Alors, sinon, la grande nouveauté du film aussi, c'est le destin des parents de Parker. Puisque sinon.
Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ce côté-là qui est un petit peu surexploité.
Oui.
Par rapport à le fait de vouloir mettre les choses à plat, c'est-à-dire qu'on dit ok, on démarre à partir du début de Spider-Man, un début que beaucoup de gens connaissent maintenant, et on essaye de faire ça à notre sauce, avec quelques petits trucs. Bon, le truc de l'araignée génétiquement modifiée, c'est pas ça au départ. Enfin bon, ça on s'en fout.
Hein. Cette fois-ci, ils balancent des toiles d'araignée,
voilà,
c'est des gadgets. D'ailleurs, qui viennent de Oscorp.
De Oscorp, oui. Alors là, c'est pas mal. Disons que ça fait partie également. Du monde de Spider-Man et tout, même dans les comics où Oscorp est de toute façon la multinationale super puissante qui fournit absolument tout et n'importe quoi. Mais faut dire qu'il y a aussi Tony Stark qui est un concurrent sérieux.
Oui. Ouais, d'où peut-être voilà, mais bon c'est pas Marvel Studios non plus. Alors il faut savoir pourquoi un reboot si tôt après la fin la sortie du troisième épisode, c'est parce que Sony risquait de perdre les droits à partir du moment où tu ne fais pas de film à partir d'une franchise, donc c'est pour ça qu'ils ont sorti le reboot aussi tôt.
D'accord.
Plusieurs choses à dire sur le film selon moi. Bon, c'est un film qui est raté. Moi ça m'a pas fait l'ombre d'une seconde oublier la trilogie de Rémy.
C'est pas un film raté, moi je dirais que c'est un film qui se laisse voir, tu t'emmerdes pas trop, ça va. Ok, tu révises tes fondamentaux quoi. Globalement c'est ça. Malgré on va dire une grossière erreur, mais bon Je veux dire, pour le novice, quelqu'un qui va rentrer dans le personnage Spider-Man et qu'il connaît pas trop, il n'y a pas de problème, ça pose pas de problème.
Ça, c'est sûr, c'est du temps de cerveau disponible, hein, le film. Hein.
Une question.
Parce que tu crois que les jeunes, ils savent lire encore ?
Bon, une question là. Ils ont des droits, ils ont une franchise, très bien. Mais si au lieu d'avoir fait un reboot sur Spider-Man, ils auraient pu prendre, je sais pas, le point de vue d'un des méchants de Spider-Man, juste où. Faire un film à partir d'un sidekick de Spider-Man, n'importe, hein.
Genre Harry Osborn.
Oui, voilà, par exemple.
Si tu mets un autre nom sur l'affiche, c'est une autre licence.
Ouais.
C'est après, moi je suis tout à fait d'accord, ce serait bien que l'on ait quand même un film avec en personnage titre le méchant et inverser les choses, ce serait hyper intéressant. On reverrait complètement la gamme des super héros. Mais après, comme finalement là il y a The Dark Knight Return, Rises, à chaque fois, ouais. Ce sont les méchants qui sont mis en avant et franchement, oui. Bien.
Enfin, c'est surtout dans The Dark Knight où tu as une mise en avant du Joker qui était fabuleux et effectivement qui avait un petit peu occulté le Batman.
On n'a pas encore
vu de nouveau, nous n'attendons que ça.
Alors pour revenir à Spider-Man, donc la principale.
À ce sujet, je trouve que le méchant donc Kurt Connors est assez réussi et que Ray Stevens se démerde vraiment très très
bien. Moi je trouve que la partie Connors est réussie, la partie lézard est totalement ratée.
Ouais,
je trouve que la partie Connors est réussie parce que il est directement dans la droite lignée de la performance d'Alfred Molina dans le 2. Je trouve que c'est la même relation qu'ils ont. Le scientifique qui part au début dans un optique très positive et qui finalement pète les plombs parce qu'il maîtrise pas sa technologie. C'est exactement le même personnage, mais sauf que Molina c'est réussi et Connor c'est moins réussi.
Et vont-ils se mettre ensemble?
Mais alors c'est marrant parce que c'est amusant de constater à quel point Mark Webb surfe sur les pas de Rémy sans pour autant jamais le rattraper, puisque la fin de ce reboot c'est la fin du 1. Puisque, bon, impossibilité de construire un couple, sachant que tu vas mettre en danger tes proches. J'ai été sidéré par le nombre de gens qui sont au courant de l'identité de Spider-Man dans ce film, parce que si tu comptes, il y en a pas mal quand même en un film.
Ah oui.
Voilà, même s'il y a des personnages qui meurent, parce que c'est même pratique, il y en a beaucoup quand même. Sans compter aussi les personnages qui se doutent, et c'est amené de façon tellement regardez ils doutent que bon voilà. Je trouve aussi que en truc raté, franchement je trouvais les à force de d'essayer de faire le plan parfait dans les bastons, complètement dépersonnalisé.
Non, je pense que là ils ont voulu en faire de trop et ils ont voulu jouer sur le fait que le film allait être diffusé en 3D. Donc rajouter un max d'effets et en fait dans les grosses scènes de combat on a l'impression d'être devant un jeu vidéo quoi.
Vraiment à fond.
Tu viens de le dire autant... du sport. Moi personnellement ce qui me faisait un petit peu peur c'est quand on voyait bande annonce dont la moitié était exclusivement consacrée à une grande scène de bataille etc avec un moment de ralenti. Quand t'as le moment de ralenti dans une scène de baston dans la bande annonce d'un film, tu sais que ce film va être un nanar.
Ça dépend. On va dire que ça a été pas mal popularisé enfin
par Matrix mais il y en avait pas il y en avait pas dans la bande annonce de Matrix.
Ça je t'assure, le bullet time il y était dans Matrix
après ça c'est sûr. Mais après par exemple quand tu vois la vision subjective qui aurait pu être le moment de mise en scène de Spider-Man, c'est je trouvais que c'était beaucoup mieux amené dans la bande annonce parce que je crois que c'était la version longue dans la bande annonce. Là quand il s'entraîne, je suis désolé, quand Tobey Maguire découvre son pouvoir et qu'il essaie de comment balancer l'étoile d'araignée en faisant Shazam, ou quand il se viande comme un gros bâtard devant les murs, ça avait plus de gueule et plus d'empathie pour le personnage que ce truc quand même. T'as Garfield, il passe en un clin d'œil je fais du skate alors je suis trop bien dans les airs alors je vais trop
c'est vite expédié voilà. Pas de problème, hein, sans problème quoi. L'équipement c'est pareil, hein, tranquille. Et même s'il prend quelques petites gamelles au départ quoi, en essayant ses lance-toiles, ces trucs comme ça quoi, c'est assez vite expédié. Alors ce qui est pas mal, c'est que contrairement aux scènes de baston hein, qui sont numérisées, qui sont 3D-isées, qui sont vraiment assez horribles à regarder quoi, qui font mal aux yeux, autant bien les effets numériques sur les déplacements de Spider-Man quand il se déplace dans la ville là sont assez réussis, je trouve. C'est pas mal, c'est sympa, c'est assez réaliste, quoi. C'est-à-dire vraiment, on se laisse presque berner, quoi, par le truc.
Et puis cette séquence finale avec ces grues. Mais c'est pas possible.
Ah ouais, ouais, mais ça fait penser à du Michael Bay, quoi.
Oh là là. Enfin bon, on ne dira pas ce que c'est, mais les grues, quoi. Quand vous verrez le film, vous penserez aux grues, vous penserez à nous.
Ok, donc je crois qu'on a compris, on va clore là.
Voilà, donc nouveau film Spider-Man de Mark Webb. Alors, par contre, c'est comme dans la franchise Avengers, il y a un petit générique, et après il y a un petit twist à la fin. Je sais pas si tu l'as vu. Il a pas vu le twist.
Si, si, mais je m'en rappelle pas du
donc,
tout.
Donc Connors qui dialogue avec lui-même à la fin.
Ouais.
D'accord. Bon, on a déjà bien spoilé le film, on en est à spoiler l'après-fin. Bravo. Ok.
Non, oui, mais ça c'est notre habitude, hein, de toute façon. Quoi.
Voilà. Donc sachez qu'il y a un twist, mais le fait que du spawn ne s'en rappelle pas montre aussi que le film est constant même après le générique. Voilà, ouais. Bref. Alors,
Mais là-dessus, hein, on a des témoignages sur du sport. Hein.
Ouais, surtout n'écoutez pas du sport, il dit que des méchancetés.
Ben en l'occurrence non. Hein. Alors The Amazing Spider-Man, film de Mark Webb avec Andrew Garfield, Emma Stone, Rick Evans, Dennis Leary, Martin Sheen, Sally Field et Campbell Scott, reboot de la franchise Spider-Man qui est actuellement à l'affiche et qui aura du full frontal de super-héros dans une semaine avec l'arrivée du Cape Crusader.
Martin Sheen.
Oui, Martin Sheen, c'est l'oncle Ben. Tu n'as pas écouté ma chronique tout à l'heure.
Bon,
allez, on va pas la refaire. Tu réécouteras.
Bref, dans l'agenda, rapidement, sachez donc que le dimanche 5 août, à EOS, c'est la 21e fête de la bande dessinée de Gascogne. Et toutes les infos sont sur eosbd.com. Mais je ne crois pas qu'ils produisent de l'eau sur place. Et on arrive à la fin du supplément.
C'est vrai que ça fait bizarre d'avoir du sport sur le plateau et de pas avoir de rubrique télé.
Merde, DJ. Oui, on dépasse déjà de 3 minutes. Il y a le producteur de l'émission sportive qui va m'en vouloir parce qu'il a le Tour de France. Donc, pour savoir quel.
Il y a beaucoup de choses à parler. Ouais.
Voilà, et je suis sûr que c'est super intéressant en termes de pharmacologie, les dernières avancées.
Je parle pas de d'anciens balkanais néo-suédois. Non, tu ne parles pas. Ah, mais non, tu fais pas de sport, toi.
Non.
Bon, d'accord.
Ok. Quelqu'un pour me faire le résumé de l'émission, hein, pour ceux qui l'ont prise en cours de route et qui ont écouté en diagonale.
Oui, ok, je te retrouve ça.
Non, mais ça, c'est après. Non, pas de résumé de l'émission. On était trois, il a fallu être attentif, donc je n'ai pas marqué. Sachez qu'il y avait beaucoup de rubriques BD et que. Voilà. Et puis il y avait eu de la BD, même en film, alors de la BD, quoi.
Voilà, et puis plus le retour d'un Xavier qui n'arrive pas à se remettre aux manettes correctement. Des sales coups pendables, genre fais-nous une chronique comme ça parce que tu n'en fais jamais, ou.
Ah non, ça c'est moi ça.
Ou fais-nous une chronique juste en plus de rire.
T'as pas suivi quand même que toutes ces gags étaient écrits et scriptés dans le conducteur.
Non, mais le coup que vous avez voulu me faire.
Non, ça c'est moi.
Une chronique sur Ringos Locos, bien.
Non, c'est bon.
Non, vous avez raison. Non, mais vous avez
raison. Tu vois que tu n'as pas besoin d'écrire des chroniques pour faire des bonnes chroniques.
Bref, vous écoutez Radio FMR sur 89.1 MHz et on continue sur www.radio-fmr.net dans le prochain épisode du Supplément Week-end.
La chauve-souris finale.
Aïe aïe aïe. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. C'était le Supplément Week-end numéro 318. Profitez-en bien, il fait beau dehors, ce qui est exceptionnel.
Non, pas exceptionnel, on est dans le sud.
Non, mais là je crois que là ça.
Mais non, ça c'est le verre qui est mat. Qui est...
Oui. Ouais, non, et on va bouffer en terrasse.
Allez,
ouais,
allez.
Bon, d'accord, oui. Ciao, bye bye, merci à tous, merci de votre écoute, merci de votre soutien et rendez-vous sur le nouveau superweekend.fr qui n'a pas changé.
Si tu veux, je peux te faire la clôture dans les émissions mainstream. Eh bien, merci de votre fidélité. Nous savons que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Nous tassons les feuilles en vrais professionnels et nous vous donnons rendez-vous, même heure, même fréquence, samedi prochain. Comme dirait Nagui, ciao, ciao, ciao.
Et sinon, français, française, au revoir.
Ah, mais pour qui tu te prends, toi? Pour quelqu'un de la haute, non mais c'est pas vrai. C'est donc sur cette imitation de Baladur que nous cédons l'antenne, passant à du sport.